du manque de transparence fiscale des États. Au-delà du choix des indicateurs, la question la plus importante pour la mesure des inégalités est évidemment celle des sources disponibles. La seule façon de parvenir à une vision d'ensemble des inégalités consiste à confronter l'ensemble des sources disponibles, comptes nationaux, enquêtes, données fiscales, qui apportent des éclairages complémentaires sur différents segments de la répartition. L'expérience indique que les données fiscales, bien que très imparfaites, conduisent généralement à améliorer substantiellement la qualité de la mesure, et en particulier à corriger fortement les données d'enquête concernant le haut de la distribution, que ces dernières sous-estiment toujours massivement, y compris dans des pays où l'administration fiscale manque de moyens pour effectuer les contrôles et lutter contre la fraude, et où les données issues de l'impôt sur le revenu sont rudimentaires. Par exemple, nous avons vu dans le précédent chapitre que les données fiscales disponibles pour la Russie et la Chine, bien que particulièrement incomplètes et insatisfaisantes pour ces deux pays, nous ont néanmoins permis de corriger substantiellement à la hausse les mesures officielles des inégalités, à base exclusivement d'enquêtes, et d'aboutir à des résultats plus plausibles, bien que probablement sous-estimés. En Inde et au Brésil, grâce notamment au soutien de nombreux chercheurs, citoyens et journalistes, les gouvernements et administrations ont accepté de nous ouvrir au cours des dernières années des données fiscales auparavant inaccessibles, ce qui a permis d'améliorer notre connaissance des inégalités de revenus dans ces pays. De même, des travaux récents portant sur le Liban, la Côte d'Ivoire et la Tunisie ont montré que les données fiscales permettaient une amélioration significative par comparaison aux mesures précédemment disponibles. Dans tous ces pays, les données issues des différents systèmes d'impôts sur les revenus actuellement en vigueur, en dépit de leurs insuffisances et du fait que de nombreux revenus échappent sans doute à ces impôts, ont conduit à revoir substantiellement à la hausse les mesures officielles des inégalités. Cela donne une idée de l'ampleur de la sous-estimation des mesures officielles généralement utilisées, qui se contentent souvent d'utiliser les enquêtes fondées sur l'autodéclaration, ce qui peut biaiser considérablement le débat public. Par mesures officielles, je désigne ici les mesures publiées par les instituts statistiques gouvernementaux. Il convient de préciser que la responsabilité pour ce manque de transparence incombe aux autorités politiques et aux insuffisances des données fiscales disponibles et non aux personnes travaillant dans ces organismes, qui sont souvent les premières à demander un meilleur accès aux sources. Le fait d'utiliser les sources fiscales, aussi imparfaites soient-elles, permet également de constater le cas échéant la mauvaise application de la loi fiscale et l'administration défaillante de l'impôt, et d'apporter des outils permettant à la société de se mobiliser pour exiger une amélioration et contrôler les progrès réalisés au cours du temps. Par exemple, dans le cas de la Chine, la publication année après année et ville par ville du nombre de contribuables figurant dans les tranches des revenus les plus élevés et d'informations détaillées sur la composition de leurs revenus permettrait sans doute de lutter beaucoup plus efficacement contre la corruption que les roulements de tambour du régime actuel. Il en va de même dans tous les pays. La transparence fiscale permet de relier la question de l'observation des inégalités à celle de la transformation de l'État et de la mobilisation politique. Malheureusement, la pression mise sur les gouvernements nationaux et leurs administrations pour ouvrir les données fiscales ne suffit pas à résoudre tous les problèmes. Une difficulté supplémentaire provient du fait que l'évolution du système fiscal et légal international tend également à diminuer la qualité des données disponibles. La libre circulation des capitaux, doublée de l'absence de coordination internationale suffisante sur les questions fiscales, et en particulier de l'absence de transmission automatique d'informations au sujet des détentions patrimoniales transfrontalières, a ainsi conduit un certain nombre de pays, en particulier en Europe, à créer des régimes fiscaux dérogatoires pour les revenus du capital. En pratique, cela a également eu pour conséquence une détérioration des sources permettant de relier les revenus du travail et du capital d'une même personne. On peut imaginer que l'appauvrissement des sources dans les pays européens augure mal de l'évolution dans les pays moins riches. Ces difficultés de mesure des inégalités de revenus deviennent encore plus problématiques quand il s'agit d'estimer la répartition de la propriété, qui est encore plus mal connue que celle des revenus, ainsi que nous le verrons plus loin. Justice sociale, justice climatique. Examinons tout d'abord de plus près les limites de la notion de revenu dont on cherche à mesurer l'inégalité, et en particulier les difficultés rencontrées pour prendre pleinement en compte la dégradation environnementale et climatique. De façon générale, il est hautement préférable pour mesurer le bien-être économique d'un pays et de ses habitants d'utiliser la notion de revenu national plutôt que celle de produit intérieur brut, PIB. Rappelons les deux différences essentielles. Le revenu national est égal au PIB diminué de la dépréciation du capital, aussi appelé la consommation de capital fixe, c'est-à-dire l'usure des équipements, machines, bâtiments, etc., et augmenté des revenus nets en provenance de l'étranger, ou diminué des revenus nets à destination de l'étranger, suivant la situation du pays. Par exemple, un pays où toute la population serait occupée à reconstruire le capital détruit par un ouragan pourrait avoir un PIB élevé, mais un revenu national nul. Il en irait de même dans un pays dont toute la production partirait à l'étranger pour rémunérer les propriétaires de son capital. La notion de PIB traduit une vision centrée sur la production, sans souci pour la dégradation du capital, en particulier celle du capital naturel, ni pour la répartition des revenus et de la propriété. Pour ces différentes raisons, le revenu national est une notion nettement plus satisfaisante. Il s'agit aussi d'une notion plus intuitive. Le revenu national par habitant correspond au revenu moyen dont disposent réellement les habitants du pays en question. Le revenu national est aussi appelé produit national net ou revenu national net, par opposition au produit national brut ou revenu national brut, qui prend en compte les revenus étrangers mais ne déduit pas la consommation de capital. Le problème est que les estimations disponibles ne permettent pas de mesurer correctement la dépréciation du capital naturel. Il s'agit du problème le plus grave, mais il en existe bien d'autres sur lesquels je ne peux pas m'étendre ici. En particulier la question de la frontière entre la consommation privée des ménages et la consommation dite intermédiaire réalisée au sein des entreprises. En pratique, les comptes nationaux officiels enregistrent certes une hausse tendancielle de la dépréciation du capital. Au niveau mondial, la consommation de capital fixe représentait à peine plus de 10% du produit intérieur brut dans les années 1970, et elle atteint près de 15% du produit intérieur brut à la fin des années 2010. Autrement dit, le revenu national représentait en moyenne environ 90% du PIB dans les années 1970 et 85% du PIB actuellement. Cette dépréciation en hausse correspond à une obsolescence accélérée de certains équipements, machines ou ordinateurs qui ont besoin d'être remplacés plus régulièrement aujourd'hui que dans le passé. En principe, ces estimations devraient également inclure la consommation de capital naturel. En pratique, cela pose plusieurs séries de difficultés. Si l'on examine tout d'abord les estimations disponibles sur l'ampleur des extractions annuelles de ressources naturelles des années 1970 aux années 2010, en particulier sous forme d'hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon, de ressources minérales, fer, cuivre, zinc, nickel, or, argent, etc., et de bois, on constate d'une part que ces flux sont très substantiels, généralement entre 2% et 5% du PIB mondial suivant les années, et d'autre part qu'ils varient énormément dans le temps, en fonction notamment de l'évolution des prix, et suivant les pays. Précisons que ces calculs portent sur la valeur annuelle des extractions réalisées, nettes de la reconstitution des différentes ressources, très lentes pour les hydrocarbures et les richesses minérales, un peu moins lentes pour les forêts, et comportent de nombreuses incertitudes. Le premier problème est que les valeurs de marché utilisées pour évaluer ces flux ne sont probablement pas les plus pertinentes. En toute logique, il faudrait prendre en compte le coût social de ces extractions, et en particulier l'impact des émissions carbone et autres gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique. De telles estimations sont par nature très incertaines. La Stern Review avait évalué en 2007 que le réchauffement climatique pourrait entraîner à terme des pertes annuelles comprises entre 5% et 20% du PIB mondial. L'accélération du réchauffement, diagnostiquée au cours des 10 dernières années, ouvre la possibilité de trajectoires comprenant des formes d'emballement et d'effets en chaîne encore plus importantes. Ainsi que nous l'avons déjà noté, il n'est pas certain que cela ait toujours un sens de vouloir tout ramener à une quantification en termes monétaires. En l'occurrence, il peut être plus pertinent de fixer des cibles à ne pas dépasser en termes de réchauffement, puis de traduire les conséquences sur les émissions maximales envisageables et les différentes politiques à mettre en œuvre, en particulier, mais pas seulement, en termes de prix du carbone et de taxes à imposer sur les émissions carbone les plus importantes. En tout état de cause, il est indispensable de raisonner à l'avenir en termes de croissance du revenu national et non du produit intérieur brut, et de prendre en compte dans le calcul de la consommation de capital fixe des estimations plausibles du véritable coût social des extractions de ressources naturelles, quitte à proposer plusieurs variantes. La seconde difficulté est que les comptes nationaux, tels qu'ils ont été développés jusqu'à présent, ne commencent à prendre en compte les ressources naturelles qu'à partir du moment où elles font l'objet d'une exploitation économique. Autrement dit, si une compagnie ou un pays commence l'exploitation d'un gisement en 2000 ou 2010, la valeur des réserves en question n'apparaîtra généralement dans les estimations du total des propriétés privées ou publiques figurant dans ces comptes nationaux officiels qu'à partir de 2000 ou 2010. En revanche, elle n'apparaîtra pas dans les estimations de 1970 ou 1980, alors même que ces gisements étaient de toute évidence déjà présents sur la planète à ces dates. Cela peut potentiellement biaiser fortement des évolutions telles que la supposée progression du total des propriétés privées en pourcentage du revenu national ou du produit intérieur brut observé depuis les années 1970-1980. Des recherches en cours pour des pays riches en ressources naturelles, comme le Canada, montrent que cela peut suffire à totalement inverser les tendances longues et que les différentes séries mériteraient d'être reprises de façon rétrospective. Cela illustre de nouveau une conclusion sur laquelle nous avons déjà insisté à plusieurs reprises, à savoir que la progression de la valeur totale des propriétés privées traduit souvent une augmentation du pouvoir accordé à la propriété privée en tant qu'institution sociale, et non pas une augmentation du capital de l'humanité en un sens général. On retrouve la même problématique avec l'appropriation privée des connaissances. Si une compagnie obtient un jour le droit de s'approprier le théorème de Pythagore et de facturer des droits financiers à tout écolier utilisant le dit théorème, alors il est probable que sa capitalisation boursière sera substantielle et par conséquent que le total des propriétés privées sur la planète s'accroîtra de façon significative, surtout si l'on étend l'opération à d'autres pans du savoir. Pourtant, le capital de l'humanité ne se sera pas accru d'un pouce, puisque le théorème en question est connu depuis plusieurs millénaires. Le cas peut sembler extrême, mais il n'est pas sans rapport avec la situation de compagnies privées comme Google se lançant dans la numérisation appropriation de bibliothèques et collections publiques, avec la possibilité de facturer ensuite l'accès à des ressources qui étaient auparavant publiques et gratuites, et de générer ainsi des gains considérables, et potentiellement sans rapport avec les investissements réalisés. Plus généralement, la capitalisation boursière des entreprises technologiques inclut des brevets et des savoir-faire qui n'auraient pas pu voir le jour sans les connaissances et les recherches fondamentales financées sur fonds publics et accumulées par l'humanité depuis des dizaines d'années. Ces appropriations privées de connaissances communes pourraient fort bien prendre une ampleur décuplée au cours du XXIe siècle. Tout dépendra notamment de l'évolution du système légal et fiscal et des mobilisations sociales et politiques à ce sujet. De l'inégalité des émissions carbone entre pays et entre individus. Enfin, la troisième difficulté, et sans doute la plus importante, est qu'il est impératif de prendre en compte les inégalités environnementales à la fois en termes de dommages causés et de dommages subis. En particulier, les émissions carbone ne sont pas simplement de la responsabilité des pays producteurs d'hydrocarbures ou des pays qui accueillent les usines intensives en émissions. Elles sont également de la responsabilité des consommateurs dans les pays importateurs, et particulièrement des plus riches d'entre eux. En utilisant les données disponibles sur les répartitions de revenus dans les différents pays, ainsi que les enquêtes permettant de relier les niveaux de revenus et les profils de consommation, il est possible d'estimer comment se répartissent les habitants de la planète. Les principaux résultats obtenus sont résumés sur le graphique 13.7. Ces estimations prennent en compte à la fois les émissions directes, par exemple au travers des transports et du chauffage individuel, et indirecte, c'est-à-dire au travers des biens consommés par les uns et les autres et des émissions nécessitées par leur production et leur transport vers le lieu de consommation. Si l'on prend en compte la totalité des émissions carbone au cours de la période 2010-2018, on constate que l'Amérique du Nord et la Chine sont chacune responsables d'environ 22% des émissions mondiales, l'Europe de 16% et le reste du monde d'environ 40%. Mais si l'on se concentre sur les émissions individuelles les plus importantes, alors la répartition change complètement. Parmi les émissions supérieures à 2,3 fois la moyenne mondiale, ce qui correspond aux 10% des émissions les plus élevées, qui regroupent environ 45% du total des émissions mondiales, l'Amérique du Nord représente 46% du total, l'Europe 16% et la Chine 12%. Si l'on examine les émissions supérieures à 9,1 fois la moyenne mondiale, c'est-à-dire les 1% des émissions les plus élevées, qui concentrent 14% des émissions totales, soit davantage que les 50% des habitants de la planète qui émettent le moins, alors l'Amérique du Nord, en pratique essentiellement les États-Unis, regroupe 57% du total, contre 15% en Europe, 6% en Chine et 22% dans le reste du monde, dont près de 13% pour le Moyen-Orient et la Russie, et à peine 4% en Inde, Asie du Sud-Est et Afrique subsaharienne. Cette concentration extrêmement élevée des plus fortes émissions aux États-Unis résulte à la fois de la plus forte inégalité des revenus et des modes de vie particulièrement énergivores, habitats espacés, véhicules polluants, etc. Ces résultats ne suffiront certes pas à faire en sorte que la planète s'accorde sur la répartition des efforts. Dans l'absolu, compte tenu de la réalité des responsabilités, il ne serait pas illogique que les États-Unis compensent le reste de la planète pour les dommages infligés au bien-être mondial, qui sont potentiellement considérables, si l'on songe au fait que les dégâts causés par le réchauffement climatique peuvent atteindre de l'ordre de 5-20% du PIB mondial, voire davantage. En pratique, il est peu probable que cela vienne spontanément des États-Unis. Par contre, il n'est pas extravagant d'imaginer que le reste du monde puisse un jour demander des comptes et imposer au pays des sanctions permettant de compenser les dommages subis. L'ampleur des dégâts entraînés par le réchauffement climatique est telle que cela pourrait naturellement entraîner de violentes tensions politiques entre les États-Unis et le reste du monde. En tout état de cause, la recherche de compromis et de normes de justice acceptables par le plus grand nombre devra s'appuyer sur une connaissance partagée de la répartition des émissions au niveau mondial. La très forte inégalité des émissions individuelles a également des conséquences pour les politiques climatiques à mener au niveau national. La logique, souvent défendue pour lutter contre le réchauffement, est celle d'une taxe carbone proportionnelle aux émissions, en complément à toute une série de mesures concernant les normes de construction et de pollution et les investissements dans les énergies renouvelables. Autrement dit, on fixe un montant de taxe par tonne de carbone émis, par exemple avec un montant allant jusqu'à 100 dollars par tonne d'ici à 2030, comme le préconisait un rapport récent afin de respecter les accords de Paris de 2015. Puis chaque pays met en place un système de taxes afin de faire en sorte que toutes les émissions, quelle que soit leur origine, acquittent en coût additionnel l'équivalent de 100 dollars par tonne. Le problème d'un tel système de taxation proportionnelle du carbone est qu'il peut être socialement très injuste, à la fois entre pays et à l'intérieur des pays. En pratique, de nombreux ménages à revenus modestes ou moyens peuvent en effet se retrouver à consacrer une plus forte proportion de leurs revenus à leur transport ou à leur chauffage que des ménages plus riches, en particulier en cas d'absence de transport collectif adéquat ou si leur logement est mal isolé. Une meilleure solution consisterait à taxer à des taux plus élevés les émissions les plus importantes. On pourrait, par exemple, avoir une exemption pour les émissions inférieures à la moyenne mondiale et une taxe de 100 dollars par tonne pour les émissions supérieures à la moyenne, puis 500 dollars au-delà de 2,3 fois la moyenne et 1000 dollars au-delà de 9,1 fois la moyenne, voire davantage. Nous reviendrons sur cette question de la taxe carbone progressive quand nous étudierons les contours d'un impôt juste, voir chapitre 17. À ce stade, notons simplement qu'aucune politique ne parviendra à lutter efficacement contre le réchauffement climatique si l'on ne place pas au cœur de la réflexion la question de la justice sociale et fiscale. Il existe plusieurs façons d'aller vers une taxe carbone progressive, durable et collectivement acceptable. Au minimum, il faut commencer par affecter intégralement les recettes de la taxe carbone à la transition écologique, en particulier pour compenser les ménages modestes les plus touchés. On peut également exonérer explicitement une première tranche de consommation minimale sur les factures d'électricité et de gaz, et imposer plus fortement les tranches plus élevées. On peut aussi taxer à des taux plus hauts le contenu carbone de certains biens et services particulièrement associés à des émissions importantes, comme les billets d'avion. Ce qui est certain, c'est que si l'on ne prend pas au sérieux la question des inégalités, alors on court le risque d'une incompréhension majeure et d'un blocage complet de toute politique climatique. De ce point de vue, la révolte des Gilets jaunes survenue en France à la fin de l'année 2018 est particulièrement emblématique. Le gouvernement avait prévu de fortes hausses de la taxe carbone en 2018-2019, auxquelles il a finalement choisi de renoncer à la suite d'un violent mouvement de protestation. Il faut dire que l'affaire avait été particulièrement malmenée, d'une façon presque caricaturale. Seule une part minoritaire, moins de 20%, des nouvelles recettes de la taxe carbone étaient affectées à la transition écologique et aux mesures de compensation, le reste finançant d'autres priorités, et notamment d'importantes baisses d'impôts pour les groupes sociaux disposant des revenus et patrimoines les plus élevés. Il faut également noter que les différentes formes de taxes carbone actuellement appliquées en France et en Europe contiennent de nombreuses exemptions. Cela concerne notamment le kérosène, qui, dans le cadre des règles européennes et de la concurrence entre pays, est totalement exonéré de taxes carbone. Concrètement, les ménages modestes ou moyens, prenant leur voiture chaque matin pour aller travailler, paient la taxe carbone à plein taux sur leur essence, mais les ménages les plus aisés, qui prennent l'avion pour partir en week-end, ne paient rien. Autrement dit, la taxe carbone dont il est question ici n'est même pas proportionnelle, elle est massivement et clairement régressive, avec des taux plus faibles sur les émissions carbone les plus élevées. Ce type d'exemple, abondamment repris dans le contexte des protestations de l'hiver 2018-2019 en France, a joué un rôle important pour convaincre les manifestants que cette politique était avant tout un prétexte pour leur faire payer davantage, et que les autorités françaises et européennes se souciaient avant tout des groupes sociaux les plus favorisés. L'autre exemple souvent cité était l'exonération du fioul utilisé dans le fret maritime international. Certes, quelle que soit la politique climatique mise en œuvre, il y aura toujours des personnes exprimant leur opposition. Mais il paraît évident que les oppositions ne peuvent que se durcir si l'on ne tente même pas de se donner une chance d'adopter une taxe carbone juste. Cet épisode souligne de nouveau le rôle crucial de la mise en place de nouvelles formes de fiscalité transnationale et en l'occurrence d'une véritable fiscalité européenne. Si les États européens continuent de fonctionner comme ils l'ont toujours fait, c'est-à-dire en partant du principe que les bienfaits de la concurrence fiscale l'emportent sur les complications et les coûts liés à une fiscalité commune, qui sont réels mais surmontables, alors il est probable qu'ils s'exposent à de nouvelles révoltes fiscales à l'avenir, et que par la même occasion, ils compromettent durablement leur stratégie climatique. À l'inverse, les mobilisations climatiques qui commencent à prendre de l'ampleur parmi les jeunes générations pourraient contribuer à changer la donne de façon décisive sur les questions de transparence démocratique et de justice fiscale transnationale.